Bon matin. Quel beau chant, et particulièrement les deux derniers. Là, j'avais des préférences, là, mais les deux derniers étaient vraiment particulièrement beaux. Tout beau, mais ceux-là, c'était extraordinaire. Merci à Steve et son équipe. Les louanges, c'est important. Moi, grand-mère, on a parfois de la musique, mais on importe beaucoup de musiciens aussi avec un budget de louanges. Donc, on va sûrement contacter bientôt aussi pour une soirée spéciale. Je t'annonce en primeur. Je pense que tu as un papa que tu connais bien aussi, qui peut t'arranger ça. Ce matin, c'est assez particulier parce que je ne sais pas ce qui m'a appelé cette semaine pour demander mon sujet. Brigitte, je pense, peux-tu? Ça m'avait appelé deux jours plus tôt, je lui aurais donné un autre sujet que celui-là. Parce que jusqu'à lundi, j'avais en tête de vous apporter quelque chose sur l'art de vieillir. Puis là, je vois un petit peu du monde dans la salle, j'aurais dû l'apporter. Là, mais... Non, mais... là, Michel recommence à recevoir des suppléments. Mon frère Serge Plante qui a une barbe. Jacques qui a toujours l'air vieux. En tout cas, tout est phénomène. Mais Dieu voulant, si un jour je reviens, je ferai peut-être celui-là, l'art de vieillir. Puis lundi, je suis allé à Bethel faire une saucette, c'est le cas de le dire. Je suis allé me baigner là-bas parce que ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais pas été à Bethel. J'allais dans le temps avec ma famille. Puis à travers toutes les discussions que j'ai eues avec les campeurs de cette journée-là, finalement, ça m'a amené à choisir ce sujet-là pour vous ce matin. Donc, c'est pour ça que quand elle m'a appelé, je t'ai rendu à cette étape-là de dire, bien, finalement, c'est celui-là qu'on va voir. Puis je vous invite à tourner dans Luc, chapitre 8. L'Évangile de Luc, chapitre 8, le verset 22. Luc, chapitre 8 et le verset 22. C'est une histoire que j'ai toujours aimé lire et relire, puis j'espère que ce matin, vous allez redécouvrir cette histoire-là, mais avec les leçons qui vont avec aussi. Luc, chapitre 8, verset 22. « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Quand j'ai demandé à Michael, mon plus vieux chez nous, qui d'ailleurs se marie le 6 septembre avec une certaine Alexandra Lacasse que certains connaissaient de l'Assemblée Chaulignan, quand j'ai demandé à Michael de me trouver une illustration, parce que j'étais un zéro dans le PowerPoint, puis je vois mon ami Billy, là, je pense que c'est un spécialiste, là. J'ai dit à Michael, trouve-moi pas une image ou une illustration par rapport à cette histoire-là où on voit Jésus en train de calmer la tempête, parce que c'est pas ça le but de l'histoire. Je voulais une illustration où on voit les disciples en pleine panique alors qu'ils vivent une tempête, parce que c'est là la leçon de l'histoire. Et la question du Seigneur à ses disciples effrayés est assez pénétrante et percutante. Une fois qu'il a calmé la tempête, quelle question qu'il leur a posée? Où est votre foi? Tu sais, d'un point de vue humain, on se place beaucoup dans la peau de ces disciples-là qui étaient en train de vivre une terrible tempête, puis on comprend leur frayeur. Puis ce matin, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tu vis peut-être justement une tempête dans ta vie. Puis on peut facilement s'identifier à ces disciples-là. Mais tu sais, une fois d'avoir vécu cette tempête-là, de se faire poser cette question-là assez pénétrante de la part du Seigneur, quelle est ta foi? Souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas la nature de la foi qu'on est parfois dans le trouble, qu'on est malheureux. La foi, rappelons-le, c'est un don de Dieu, selon Éphésiens 2:4. C'est ce qui nous sauve. J'espère que c'est le cas de tout le monde ce matin. Que vous êtes sauvés. Mais même si on est véritablement sauvé par la foi, ça se peut qu'on vive des problèmes dans notre vie chrétienne parce qu'on ne comprend pas c'est quoi vraiment la foi. Cet incident révèle l'importance vitale de faire la distinction entre le don original de la foi et la marche de foi, ou la vie de foi qui vient subséquemment. Tu sais, dans le fond, Dieu nous démarre dans cette vie chrétienne et ensuite, on a à marcher dedans. On marche par la foi et non par la vue, dit 2 Corinthiens 5:7, et c'est le thème qu'on va considérer ce matin. Mais avant d'aborder spécifiquement ce thème, on ne doit pas banaliser ce que ce passage nous révèle sur la personne de notre Seigneur lui-même. Puis j'étais tellement content du thème de ce matin du repas du Seigneur, où on voit la divinité de Christ. Cet incident nous amène face à face, avec ce qui est décrit comme un paradoxe, une contradiction apparente dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit ce texte, on voit cette illustration, j'espère que ça choque personne qu'on illustre des affaires, je le dirai après. Alors, quand on voit cette illustration, qu'on lit ce texte, on voit un Seigneur qui ne ressemble pas trop à un fils de Dieu. On voit un gars fatigué, épuisé, en train de dormir. Il est même tombé endormi pendant le voyage. En passant, cet incident est rapporté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. C'est important pour comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regardons-le, soit dans l'illustration, mais dans le texte. Son humanité ne fait aucun doute. Il est fatigué. Il est tellement fatigué, même qu'il continue à dormir malgré la tempête. Tu es fatigué, ça? Jésus avait les infirmités de la nature humaine, pour prendre un terme théologique. Jésus avait les infirmités de la nature humaine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu la fatigue. C'est intéressant, on retrouve ces trois éléments-là dans une seule histoire. On ne tournera pas, mais on la connaît bien dans Jean 4, avec cette rencontre fantastique avec la femme samaritaine. Rappelez-vous le contexte de cette rencontre-là au début. On voit un Jésus qui s'assit au bord du puits et le texte nous dit qu'il est fatigué. Du voyage. Puis, qu'est-ce qu'il demande à la femme de Samarie? Donne-moi quoi à boire? Il est fatigué, il a soif. Et ses disciples étaient partis en ville pour acheter quoi? De la bouffe. Jésus était pleinement homme, il avait besoin de manger, il avait besoin de boire, il avait besoin de se reposer. Alors, un seul passage dans Jean 4 qui nous montre un Jésus fatigué, assoiffé, qui, comme tout être humain, a besoin de nourriture. Et ce ne sont pas des infirmités pécheresses, attention. Mais ce sont des infirmités propres à l'être humain. Il est un homme dans un corps de chair, comme tout le reste de nous. Jésus, homme, et c'est ce qu'on voit pleinement dans cette illustration, dans cette histoire, un Jésus fatigué qui est en train de dormir. Mais attendez une minute, là. Il est plus qu'un homme. C'est pour ça qu'ils sont allés à lui. Ils l'ont réveillé en disant, « Maître, et là je cite un autre passage des Évangiles, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas, ne te mets-tu pas en peine de ce qu'on périsse? » Puis même, dans le texte qu'on a devant nous, dans Luc, à deux reprises, ils vont dire, « Maître, maître! » Et là, ça démontre une panique, ça. Ne t'inquiètes-tu pas, ne te mets-tu pas en peine de ce qu'on périsse? Puis, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur se réveille, se lève, menace le vent et les flots, et il s'apaise. Le calme revint, un grand calme va préciser Marc. Vous êtes en pleine grosse tempête, un tourbillon. Le Seigneur se lève, et en un instant, tout devient calme. J'espère que ça nous impressionne encore en 2014. C'est plus qu'un homme. C'est bien plus qu'un homme. C'est pas surprenant que les disciples, voyant tout ça, ont été étonnés, se dire les uns aux autres, c'est qui ça? Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quelle sorte d'homme que c'est ça? On a eu la réponse au repas du Seigneur, il est je suis. En passant, je partageais ça avec mes frères tantôt. C'est intéressant de voir que dans l'Apocalypse, lorsque le Seigneur en gloire se révèle à Jean, il va dire « J'étais mort ». C'est drôle, le « je suis » a dit « j'étais ». J'étais mort. C'est incroyable comment il nous aime parce que le Fils de Dieu éternel a accepté de mourir. Mais le texte dans l'Apocalypse va dire « je suis maintenant vivant au siècle des siècles ». Homme, oui, mais évidemment Dieu à la fois. Écoutez, il pouvait commander aux éléments, c'est le Créateur qui est dans la barque. Il pouvait réduire au silence le vent, stopper les flots de la mer. Il est le Seigneur de la nature, de la création. Il est le Seigneur de l'univers. C'est Jésus-Christ. C'est le mystère et la merveille de Jésus-Christ. Dieu, 100%, homme, 100%. Ça ne fit pas, ça, mathématiquement. Mais c'est ce qu'il est. Deux natures en une seule personne. Deux natures séparées, mais habitant pourtant dans la même personne. Puis ce matin, je veux commencer par ça, cette démonstration de la divinité de Jésus-Christ, parce que si on n'est pas au clair avec ça, ça ne donne rien d'aller plus loin ce matin. Si toi, ce matin, qui es assis dans la salle, tu ne crois pas en la divinité de Jésus-Christ, tu as beau peut-être te penser sauvé et chrétien, tu ne peux pas être un chrétien, parce que c'est la base de reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. On ne regarde pas seulement ce matin un homme bon seulement, qui a été effectivement bon. On n'est pas seulement intéressé par le fait qu'il a été le plus grand enseignant que le monde ait jamais connu. C'est une réalité, oui. On est face à face ce matin avec le fait que Dieu, le Fils éternel, a été dans ce monde, qu'il a pris sur lui une nature humaine, pleinement humaine, qu'il a habité parmi nous, ça a été dit ce matin. Un homme parmi les hommes, l'homme-Dieu avec un grand H, puis un grand Dieu, un grand D. On est face à face ce matin avec le mystère, la merveille de l'incarnation, de la naissance virginale. Tout ça est là et ça brille dans toute la plénitude de son incroyable gloire. Et à la question que les disciples ont posée, quel est celui-ci? Ben, la réponse, c'est qu'il est plus qu'un homme. Il est Dieu. C'est le Fils de Dieu qu'ils avaient dans leur barque cette journée-là. Et si tu es croyant ce matin, si tu es chrétien, né de nouveau, dis-toi que dans ta vie, dans ta barque, tu n'as rien de moins que le Fils de Dieu. Toutefois, ce n'est pas, il me semble, le but spécial de cet incident particulier, parce que cette révélation de la divinité de Christ, on la voit dans toutes les histoires des évangiles. Donc, ce n'est pas le but particulier de ce texte-là. Chaque incident où on révèle la divinité de Christ a quand même une leçon particulière. Dans ce cas, il ne peut y avoir aucun doute que ce message est la leçon en ce qui concerne les disciples et leurs conditions à ce point. C'est la grande leçon concernant la foi et la nature, le caractère de la foi. C'est ça la leçon de cette histoire-là. Et je suis tellement reconnaissant envers ces disciples qu'on croise régulièrement dans les évangiles parce que on les voit avec leurs erreurs, on les voit avec leurs gaffes, puis on se reconnaît dedans. Comme c'est merveilleux de pouvoir lire des récits comme celui-ci et nous voir nous-mêmes dépeints en eux. Moi, je me vois en train de paniquer quand ça va mal dans ma vie. Je ressemble à ça. Je suis un paniqueux de nature quand j'ai des contretemps, des contrariétés dans ma vie, puis même des petites contrariétés, imaginez. Il y a de l'ouvrage à faire. Et donc, je suis reconnaissant que les Écritures aient conservé dans leur intégralité, oui, les forces, mais les faiblesses de ces disciples-là. Cette fragilité humaine. Puis là, on trouve dans ce texte notre Seigneur en train de reprendre ces hommes. Il les reprend à cause de quoi? À cause de leur panique, à cause de leur alarme, leur terreur, leur manque de foi. Les voici qui étaient dans la barque avec lui, la tempête s'est levée et bientôt ils étaient en difficulté. Puis même s'ils ont sûrement tenté d'enlever l'eau à mesure, on s'entend-tu qu'il n'y avait pas des maillets dans la barque? Là? Il y avait une couple de pêcheurs qui connaissaient ça, aller sous l'eau, qui connaissaient les tempêtes, puis pas nécessairement pas, c'était pas des peureux de nature. Alors sûrement que les gars, à un moment donné, il y en avait vu d'autres tempêtes. Et sûrement qu'ils ont tout fait, à un moment donné, quand l'eau commençait à embarquer, hein, le texte nous dit, un tourbillon fondit sur le lac au verset 23, la barque se remplissait d'eau. Alors ils ont sûrement tenté, à un moment donné, de vider ça à mesure. C'est pas des maillets. Sûrement tout fait pour régler la situation par eux-mêmes. Pourtant, la barque était quand même en train de se remplir. Ils pouvaient voir que dans quelques instants, ils allaient couler. Là, c'était quelque chose qui s'en venait, ça. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ça semblait ne s'être avéré d'aucune utilité. Ce qui les étonnait, surtout, c'était que pendant ce temps-là, le maître dormait. Imaginez la scène, là, la gang de gars, ils se débattent pour essayer de ne pas couler. Seigneur dort. C'est ça qui les étonnait. Ils dormaient à la poupe, à l'arrière de la barque, sur le coussin, sur un oreiller, comme le précise Marc 4:38. Alors, ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'on périsse, ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssions, es-tu insouciant de ce qui se passe? » C'est ça qu'il est en train de lui dire. La question, l'intervention et la panique des disciples, c'est, « Écoute, es-tu insouciant de ce qui se passe? » Ils sont en train de couler. Matthieu nous dit qu'il se leva et qu'après avoir menacé les vents et la mer, il les a réprimandés. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. C'est intéressant, le verbe réprimander en anglais, c'est. En anglais, le terme menacer et réprimander, c'est le même verbe to rebuke. Alors, on a vu que dans le texte, il a menacé les vents et la mer. Après ça, il a réprimandé les disciples. C'est comme si il a réglé le cas de la mer. Puis des vents, puis après ça, il a réglé le cas des disciples. Il les a réprimandés. Maintenant, on doit faire attention pour observer cette réprimande et comprendre ce qu'il était en train de leur dire, dans le fond. En premier lieu, il les reprenait pour être dans un tel état. Et c'est pour ça qu'il leur pose cette question cruciale. Où est votre foi? Matthieu 8, 26 se dit comme suit. « Pourquoi avez-vous peur? » Même, il va leur dire ceci. « Gens de peu de foi. » Hey, tu te dis, Seigneur, c'est vrai que tu dormais, ça brassait. Hey, il leur pose la question, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ici comme ailleurs, le Seigneur s'étonnait de leur incrédulité. Puis, dans le fond, il les a repris pour être dans cet état d'agitation, de terreur et d'alarme, alors qu'il était avec eux dans la barque. C'est pour ça qu'il leur pose cette question, « Où est votre foi? » C'est pour ça qu'il les réprimande. C'est pour ça qu'il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur, gens de peu de foi? » C'est la première grande leçon qu'on a à nous appliquer à nous-mêmes, les uns aux autres. Un auteur qu'on connaît bien pour plusieurs, Martin Lloyd-Jones, dira qu'il est très mal pour un chrétien d'être dans une telle condition. Et je le cite, « Quelles que soient les circonstances, le chrétien ne devrait jamais être agité. Le chrétien ne devrait jamais être dans une condition dans laquelle il a perdu le contrôle de lui-même. » Fin de la citation. C'est la première leçon ce matin qu'on doit apprendre. Parce qu'on a vécu des tempêtes. Vous êtes peut-être même en train d'en vivre des tempêtes. Puis, je vous annonce quelque chose, on va en vivre d'autres. Comment qu'on réagit quand ça arrive? Ça, c'est la première leçon. Un chrétien ne devrait jamais, comme la personne du monde, être dépressive, agitée, alarmée, affolée, ne sachant quoi faire. C'est la réaction typique aux troubles de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pourquoi il est si mal d'être comme ça, dira Lloyd-Jones. Hey, on a Jésus dans notre barque si je suis un enfant de Dieu ce matin. Je peux comprendre la panique de quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa barque. Je peux comprendre la panique dans un monde en 2014 tellement troublé partout, au niveau international, au niveau de l'économie, au niveau de ci, de ça. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, je ne comprends pas comment il fait pour se lever le matin. Mais nous, on a Jésus dans notre barque si je suis son enfant. Rappelons-nous ça, la première leçon. Et c'est pour ça que la réprimande est si sévère. Où est votre foi? Quand c'est le temps de la montrer. On s'entend-tu que la tempête a été voulue par Dieu? On s'entend-tu qu'il savait ce qu'il faisait quand il dit, bon, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et de partir. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fendu sur le lac. Pensez-vous que là, c'était une grande surprise pour le Seigneur? Non, il savait qu'il y avait une leçon à faire vivre aux disciples, une leçon de foi. Tout comme toutes nos tempêtes dans nos vies, c'est le Seigneur qui les permet. Le Seigneur de l'univers est en contrôle de toutes choses. Même s'il dort, il est en contrôle. Dans son humanité. Lloyd-Jones nous rappelle que le chrétien est différent des autres personnes. Le chrétien a quelque chose que le non-chrétien ne possède pas. Puis l'idéal pour le chrétien est ce qui est affirmé si parfaitement par l'apôtre Paul dans le 4e chapitre de l'Épître aux Philippiens sans tourner, qu'on connaît bien au verset 11. « J'ai appris à être content à moi-même dans les circonstances où je me trouve. » Que ça brasse ou ça brasse pas, Paul a appris à être content. Pourquoi? Parce que le verset 13 de Philippiens 4 nous dira « Je puis toute chose, je puis tout en celui qui me fortifie. » Darby dira « Je puis toute chose en celui qui me fortifie. » Ça, c'est la position chrétienne. C'est ce que les chrétiens sont censés être. Le chrétien n'est jamais censé être emporté par ses sentiments, quels qu'ils soient jamais. C'est toujours mal chez un chrétien. Il doit toujours être en contrôle. Le problème avec ces hommes-là dans cette barque, c'est qu'ils manquaient de maîtrise de soi. C'est pourquoi ils étaient misérables, c'est pourquoi ils étaient malheureux, paniqueux. C'est pourquoi ils étaient alarmés, agités, même si le Fils de Dieu était avec eux dans la barque. Tu sais, c'est quand même fort. Et donc, c'est un principe qui n'est pas facile à vivre, mais c'est un principe réel. Un chrétien ne devrait jamais perdre la maîtrise de soi, ne devrait jamais être dans un état d'agitation ou de terreur, d'alarme, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus dans ma barque. Si ça peut être possible, ou permis, entre guillemets, ou normal, le Seigneur ne les aurait pas réprimandés. Arrêtez les gars, je comprends, c'est vrai que ça brossait. Je comprends, vous avez eu peur. Non, non, pourquoi vous avez eu si peur? J'étais avec vous autres. Gens de peu de foi. Où est votre foi? Nous dit Luc. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que la position de ces gens était vraiment alarmante. Puis c'est, ça n'enlève pas le fait ce matin que l'épreuve que tu vis dans ta vie, la tempête que tu vis, elle est réelle. On n'est pas en train de vivre dans le déni, ça. C'est vrai qu'ils étaient en péril, ils avaient l'air sur le point de se noyer l'instant suivant, mais dans les faits, notre Seigneur dit, vous ne devriez pas être dans cette condition de panique. En tant que mes disciples, vous n'avez aucun droit d'être dans un tel état, même si vous êtes en danger. C'est ça qu'il leur dit par cette question-là. Ça, c'est la première grande leçon. Puis la seconde qui fait en sorte que ce soit si mal que d'être dans cette condition, c'est que quoi? Ça implique un manque de confiance en lui. Ça implique un manque de confiance en lui. Voilà le problème. Voilà pourquoi c'est si répréhensible que de réagir comme ça quand on vit des tempêtes. Dans les faits, le Seigneur leur a dit ceci, « Vous sentez-vous comme ça en dépit du fait que je suis avec vous autres? » Pas une grosse confiance en moi. Puis, on s'entend-tu qu'au moment où ça arrive dans Luc 8 ou dans les autres évangiles, le Seigneur a fait plus d'une fois la démonstration de sa puissance en présence de ses disciples, que ce soit par des miracles, que ce soit par des guérisons, que ce soit par toutes sortes de choses. On s'entend-tu qu'il savait qu'il était capable de tout faire? À plus forte raison, ils sont répréhensibles parce qu'ils savaient, ils avaient été témoins de sa puissance. Comme nous aussi, si on est des enfants de Dieu, je pense qu'on ferait le tour de salle et on pourrait témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies depuis qu'on est sauvés. Pourtant, lorsque ça se met à brasser, on oublie ça. On oublie ça. Ça implique un manque de confiance en lui. Dans le fond, il leur pose cette question, ne me faites-vous pas confiance, coudonc? Puis c'est terrible, pas dans Luc, mais dans les autres évangiles, quand les disciples vont même jusqu'à lui dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'on périsse? N'est-ce pas une accusation terrible de dire ça au Seigneur? Écoute donc, tu ne te soucies pas de ce que je vis? Quand on sait qu'il n'a pas épargné, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour me sauver de l'enfer. Puis là, Romains 8 nous dit quoi? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? T'sais, on a Dieu de notre bord et dans notre barque. Puis là, tout à coup, lorsque ça se met à brasser, on se met à douter de Dieu, à douter de son amour, de sa puissance. Et c'est pour ça, justement, qu'il nous fait vivre des tests, des épreuves, des tempêtes, pour fortifier notre foi qui est faible. Oui, il nous donne la foi à notre salut, à notre conversion, mais cette foi est appelée à grandir, puis pour qu'elle grandisse, il permet qu'on aille faire un tour sur le lac de temps en temps. Parce qu'on s'est entendu que les disciples, lorsqu'ils ont vu ce qu'il a fait, encore une fois, parce qu'ils l'avaient vu faire tant de choses, mais encore là, ils ont vu sa puissance, ils ont vu, que c'est qui ça? Ah, ils se lèvent, puis tout arrête d'un coup sec. C'est extraordinaire. Ça a fortifié leur foi, ce qu'ils ont vécu là. Puis quand ils disent, ne t'inquiète-tu pas de ce qu'on périsse ou de ce que nous périssions, je ne pense pas qu'ils faisaient référence seulement qu'à eux-mêmes ou à leur propre sécurité. T'sais. Je ne pense pas qu'ils étaient si centrés sur eux-mêmes. Je ne pense pas qu'ils aient voulu simplement dire, ne te soucies-tu pas que nous allons nous noyer, nous les disciples? Non, non, il incluait le Seigneur avec. Coudon, ne t'inquiète-tu pas qu'on va tout caler, là? Toi compris? Wake up. Là, c'est pas dans le texte. C'est une version quelconque. Alors, je crois qu'il l'incluait tout aussi bien dans cette déclaration-là. On pensait qu'ils allaient tous y passer, tous se noyer. Mais quand même, cette agitation, cette alarme transporte toujours avec elle un manque implicite de confiance en lui. Quand je panique lorsqu'il m'arrive des affaires dans ma vie, je suis en train de manquer de confiance au Seigneur. C'est pas compliqué. Je ne peux pas me défiler. Là. D'où la question pertinente à chaque fois. Où est ta foi quand c'est le temps de la montrer? Où est ta foi? Et c'est un manque implicite de confiance en lui. C'est un manque de foi dans sa préoccupation pour nous, dans ses soins pour nous. Ça veut dire qu'on va finalement essayer de s'en sortir par nous autres mêmes. On va y prendre les choses en main, comme les gars ont sûrement essayé de vider l'eau de la barque jusqu'à temps qu'ils se décident d'aller finalement à la solution, d'aller voir le Seigneur. Puis souvent, le problème avec nos vies, c'est qu'on essaie de se débrouiller nous autres mêmes. Là, rendu au bout du goulot, on va voir le Seigneur. On aurait dû y aller avant. Coudon, il n'a pas l'air de se préoccuper de nous autres. Coudon, peut-être qu'il pouvait faire d'autres choses dans d'autres situations. Peut-être que dans cette situation-là, il ne peut rien faire. C'est ça qui rend la chose si terrible, cette agitation si terrible. Puis je me demande si on le réalise toujours dans nos vies, dans ma vie. Nous autres, ça semble évident ce matin, lorsqu'on regarde ça objectivement dans ce texte-là, cette histoire-là, dans le cas des disciples, mais quand vous et moi sommes agités, bouleversés, puis qu'on ne sait pas quoi faire, puis qu'on donne l'impression d'une grande tension nerveuse, quiconque nous regarde est en droit de nous dire, coudonc, cette personne n'a pas beaucoup de foi dans son Seigneur. Ça semble pas être bien différent que d'être un chrétien après tout. Il n'y a pas beaucoup de valeur dans le christianisme à ce que je vois dans cette personne qui est tellement agitée avec ce qu'elle vit. Tout ce qui vient au travers de notre chemin et tout ce qui nous met en difficulté montre si nous croyons en lui et si nous lui faisons confiance par notre réponse et notre réaction à ça. Alors, les deux premières grandes leçons, à première vue ce matin, qu'on peut voir, c'est que nous ne devons jamais nous permettre d'être agités et dérangés, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, ça implique un manque de foi et une confiance ou de confiance en notre bien-aimé Seigneur Dieu. Mais j'aimerais ça aussi qu'on parle à travers ce texte-là de l'épreuve de la foi. Vous savez, les Écritures sont remplies de cette idée que notre foi est éprouvée, parce que c'était le cas des disciples. Le but de cette histoire-là, comme je l'ai dit, c'était pas tant de montrer la puissance du Seigneur à calmer une tempête, mais de montrer aux disciples, « Hey, votre foi n'est pas forte. » Et c'est pour ça que l'épreuve de la foi, c'est un thème qu'on retrouve dans toutes les Écritures. Prenez sans tourner, on connaît tous Hébreux 11, hein, ces héros de la foi, dans un sens, c'est rien d'autre qu'une grande exposition de ce thème de l'épreuve de la foi. Quand on lit ce chapitre 11 d'Hébreux, on voit la liste de ces hommes qui ont été éprouvés dans leur foi. S'entends-tu qu'ils ont passé à travers des tests terribles? Ils leur ont été donnés de grandes promesses et ils les ont acceptées, alors tout semblait aller mal après, tu sais. C'est vrai pour chacun d'eux. Pensons à l'épreuve d'un homme comme Noé, l'épreuve d'un homme comme Abraham, les épreuves que les hommes tels que Jacob, spécialement Moïse, avaient endurées. Dieu donne le don de foi, alors ensuite la foi est éprouvée. On peut penser à Pierre dans sa première épître au chapitre 1er qui dit exactement la même chose, hein, qui parle de l'épreuve de la foi sans tourner. C'est le thème de toutes les Écritures. On trouve ça dans l'histoire des patriarches, de tous les saints de l'Ancien Testament. On trouve ça à travers le Nouveau Testament. C'est un thème particulièrement vrai dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. La foi est éprouvée. Alors, il faut être clair au sujet de ça. On doit commencer par comprendre que nous pouvons très bien nous trouver nous-mêmes dans une position où notre foi va être testée, éprouvée. Et donc, une autre vérité qu'on doit se rappeler ce matin, je l'ai évoqué ce matin plus tôt, les tempêtes et les épreuves sont permises par Dieu. Le Seigneur Jésus savait très bien tout ce qui allait se passer sur ce lac. C'est lui qui a permis que la tempête se lève. Et si on vit la vie chrétienne ou que nous tentons de vivre la vie chrétienne en ce moment, en supposant que ça veut juste dire venir à Christ et que tu n'auras plus jamais d'inquiétude de toute ta vie, plus aucun problème de toute ta vie, tu entretiens une terrible erreur. Parce que ta foi va être testée. Notre foi sera éprouvée. Elle l'a été dans le passé, elle l'est peut-être présentement ce matin dans ta vie, elle le sera sûrement plus tard aussi. Pendant qu'on sera dans ce pèlerinage terrestre, notre foi sera éprouvée par des tempêtes, des épreuves. Mais la beauté de l'affaire, c'est que Dieu est en contrôle. C'est ce qu'il fait. Jacques va aussi loin jusqu'à dire de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés dans Jacques 1-2. Dieu permet les tempêtes, il permet les difficultés, il permet au vent de souffler, aux nuages de s'amener. Tout peut nous sembler aller mal et nous-mêmes, on peut sembler être en danger, mais on doit apprendre et réaliser que Dieu ne prend pas son peuple, ne l'amène pas dans une sorte de lieu où il est protégé des malheurs. Pas du tout. Et même que l'apôtre Paul semble aller plus loin que ça en disant dans Philippiens 29, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore quoi? De souffrir pour lui. » Et Jésus dira dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Tu sais, je veux dire, là, c'est pas un évangile de prospérité puis un évangile de « tout va être beau si tu viens à moi ». Non, non, il l'annonce clairement. « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais la phrase finit pas là. « Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Je l'ai déjà dit, vous l'avez sûrement déjà entendu, Dieu ne promet pas le confort, mais le réconfort. Et bon courage, oui, mais souviens-toi que tu auras la tribulation. Alors, notre Seigneur, parfois, semble aller se coucher, parfois, semble ne plus s'en mêler. Mais ce qu'il fait, c'est que le Seigneur permet des tempêtes, puis il laisse une période de temps X pour qu'on puisse vivre cette tempête-là, pour éprouver notre foi. Et là où la foi vraiment est testée, c'est quand on pense, justement, que notre Seigneur semble insouciant à notre sujet. C'est là que le vrai test de foi arrive. Tu sais, à un moment donné, on a une épreuve. Vous savez, c'est sûr que quand ça fait mal, ça fait mal. Quand on a un problème puis une épreuve. C'est intéressant, à Bethel, je jasais avec quelqu'un, puis à tout bout de champ, il disait « j'ai un défi ». Tu sais, au lieu de dire « j'ai un problème », tu sais, c'est toujours ça politiquement correct, « j'ai un défi », mais c'est un problème, tu sais. Aujourd'hui, c'est un langage toujours pour minimiser les choses. Quand tu as un problème, quand tu as des épreuves, c'est une épreuve. C'est pas un défi. Mais c'est quand on en arrive au bout du rouleau. Tu sais, on a une épreuve, on vit quelque chose. Ça peut être un enfant converti, ça peut être de la maladie, ça peut être un problème familial, un problème d'église, ça peut être toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'épreuves. Puis on sait que quand on est dedans, ça paraît-tu long? Oui, ça paraît long. On a-tu hâte que ça finisse? Mais c'est là que le test de foi arrive. C'est là qu'on commence à dire, « Seigneur, coudonc, tu te préoccupes-tu de ma situation? » Oups, c'est là que le test de foi arrive. Parce qu'on commence à réagir et à se poser cette question-là. De la même façon que les disciples, « Coudonc, t'inquiètes-tu de ce qu'on périsse? T'es-tu rendu insouciant? » Oups, c'est là que le test de foi arrive. Vous savez, écoutez bien ceci, le vent et les vagues étaient déjà assez graves et l'eau entrait dans la barque, c'était terrible, mais la chose qui leur semblait le plus terrible de tout à ces disciples-là, c'était putain la tempête que l'insouciance du Seigneur. Du moins l'insouciance apparente. Il était encore en train de dormir, il semblait même pas se soucier d'eux. Il a l'air insouciant à notre sujet, insouciant envers lui-même, même insouciant au sujet de sa cause, insouciant au sujet de son royaume. Tu sais, imaginons seulement les sentiments de ces hommes-là dans la barque. Ils ont décidé de suivre le Seigneur. Le Seigneur les amène dans une mission. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, écoutez, ils l'avaient suivi, ils avaient écouté son enseignement au sujet du royaume à venir, ils avaient vu ses miracles, ils s'attendaient à ce que des choses merveilleuses arrivent, puis maintenant, ça regardait comme si tout allait se terminer dans un naufrage. Écoutons, là, c'était quoi la joke? On va tout finir en train de se noyer, c'est quoi l'affaire? Quelle déception, puis tout ça à cause de son insouciance apparente. Quelle déception pour eux. Tu sais, souvent, on se pose des questions. Pourquoi me permet-il, moi, un chrétien, de souffrir comme ça? Pourtant, je suis fidèle à mon Église. Je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne. Puis pourtant, regarde-moi, puis regarde La personne dans le monde, ça prospère, puis ça a du fun, puis la vie est belle. T'sais. Semble-t-il. Quand on commence à se poser des questions comme ça, là, dans le fond, hein, on en arrive à poser cette question terrible, mais pourtant, sans la verbaliser, mais parfois on le pense. Coudonc, pourquoi Dieu, tu fais rien avec ma situation? Pourquoi tu fais rien avec ma situation? Quand on dit ça, puis comme je le dis, on ne le verbalise pas nécessairement, mais dans notre attitude, dans notre déception, dans notre découragement, puis pour ne pas dire notre dépression peut-être, on perd de vue le Seigneur. Puis on dit, c'est vrai qu'il dort, puis là. C'est vrai qu'il ne se soucie pas de moi. Je prie, puis rien qui change. On a-tu besoin de foi, vous pensez? De plus de foi. Le fait que Dieu permette ces choses et qu'il semble souvent en être insouciant, c'est vraiment ce qui constitue réellement ce que je décris comme le test de foi ou l'épreuve de la foi. Ce sont ces conditions dans lesquelles notre foi est éprouvée et testée, et Dieu permet tout ça. C'est un grand sujet, l'épreuve de la foi. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. C'était un thème particulièrement cher aux puritains de l'époque. L'épreuve de la foi de l'homme, comment surmonter ces choses, la marche de la foi, la vie de foi, c'est un thème constant des années 17e, 18e siècle dans l'Église. Puis peut-être dans un autre tantôt, on pourra reprendre le même texte puis justement découvrir à partir de ce court texte, c'est quoi les caractéristiques d'une vraie foi. Mais pour l'instant, je vais vous laisser avec ça, mais je vais vous encourager à, si vous vivez actuellement une épreuve quelconque, une tempête, ça brasse peut-être au niveau personnel, ça brasse peut-être au niveau de la santé, ça brasse peut-être au niveau du couple, de la famille, de l'Église, du travail, du non-travail. Dites-vous que le Seigneur est en contrôle. Puis il est en train de tester ta foi. Puis il me pose la question, quand ça brasse dans ma vie, où elle est ta foi quand c'est le temps de la montrer? Tu dis que tu crois en moi, tu as la foi, c'est le temps. Puis c'est intéressant, je vous donne un petit peu de scoop pour un éventuel message, mais il ne reproche pas aux disciples de ne pas avoir de foi en passant, de n'en avoir peu. Lorsque les disciples, on s'entend-tu, croyaient encore au Seigneur. Lorsque les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le voir. Puis on dit, Maître, on périt. Ce matin, là, tu es peut-être découragé, tu vois plus la lumière au bout du tunnel, puis tu es au bout du rouleau. Allez, vas-y au pied du Seigneur. Il est là. Ils sont allés à lui. Terminé par un mot de prière. Seigneur, un court texte qui nous rappelle une histoire qui est arrivée. On voit ton Fils dans sa pleine humanité, mais dans sa pleine divinité. Mais surtout dans cette histoire, ce qui ressort, c'est vraiment la réaction des disciples de panique. Puis, Père, je m'identifie à eux lorsque ça brosse dans ma vie, lorsque tu permets des tempêtes dans ma vie. Je suis du genre justement à réagir comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai besoin d'augmenter ma foi, que tu augmentes ma foi. Puis c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs ce matin, qui vivent peut-être présentement des épreuves terribles. Augmente leur foi. Fortifie-les. Épure cette foi-là aussi. Et Seigneur, je te prie que tout le monde ici, ce matin, aille le Seigneur dans sa barque. Je ne connais pas les cas, tu les connais. Peut-être que quelqu'un a entendu parler d'Évangile, peut-être c'est la première fois qu'il vient ici ce matin. Ça fait des années qu'il entend le message du salut par grâce, par la foi seulement en Jésus-Christ mort sur la croix. Mais Jésus n'est pas encore dans sa barque. Puis si on meurt comme ça, Seigneur, c'est l'enfer qui nous attend. Puis je demande vraiment de parler à ces personnes-là pour qu'elles se tournent vers toi. Et merci, Seigneur, d'être dans ma barque. Que je puisse m'en rappeler ce matin. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.